On va... désolé, Luc, mais il est 5h30. On va organiser la suite de l'échange pour ceux qui peuvent rester encore 25 minutes, sous forme élargie, avec retour ici, je ne sais pas comment, parce qu'on parle de table ronde, mais on n'a aucun moyen de l'organiser physiquement, donc les différents intervenants encore présents vont pouvoir reprendre la parole en intervention croisée. Daniel Carole et moi allons animer cette dernière partie d'échange en donnant la parole tout particulièrement maintenant aux représentants des usagers qui s'est déjà exprimé au cours de la journée. Mais on étendra les échanges également, peut-être.
J'aimerais bien entendre. Table ronde, Vincent.
Tu seras dans la salle, Luc. Il faut du public en répondant. J'aimerais bien entendre aussi une réaction de notre maître de conférence en histoire qui est intervenu en début d'année, en début de siècle, en début de journée, pour qu'il nous disent comment il vit, comment il entend ces échanges d'aujourd'hui au regard de la mise en perspective qu'il nous a proposée tout à l'heure, ce matin. Et puis, réaction également des différents psychiatres, soignants, architectes qui étaient présents dans la journée. On se regroupe devant. Et puis, je vais demander d'abord à M. Heidmann de réagir. Alors, soit on se met tous debout là, soit je ne sais pas comment, concrètement.
Oui, parce que pour des raisons de sécurité, on ne peut pas être au-delà de 6 personnes sur l'estrade. On va respecter les consignes de sécurité. Et on n'a pas le nombre de sièges non plus. Alors, on fait avec. Hein, comme merci.
Bon, voilà. Je me présente, je suis M. Heidmann Raymond, je suis membre du conseil de surveillance de l'EPSAN à Heurt, à une vingtaine de kilomètres de Strasbourg, et je viens en qualité de représentant des usagers, et je fais partie du GEM, l'association AUBE. Donc voilà, ça fait 6 ans que je suis au conseil de surveillance. Monsieur Carole m'avait demandé de venir à cette journée de formation. Voilà, et je l'en remercie parce que j'ai trouvé ça très enrichissant. Je m'étais dit, je viens pour un colloque. En fait, non, c'est une formation aussi pour moi, comme il est indiqué sur les plaquettes. Et donc, parler un peu de l'architecture, c'est une compétence assez particulière. Je dirais que...
Vous êtes légèrement trop proche, hein.
Oui.
Essayez comme ça.
Oui.
Non, stop. Voilà, allez-y. Allez-y.
Donc,
c'est bon.
Vous m'entendez? Ah oui. Donc, je disais donc que ce matin a été retracé l'historique un peu de la psychiatrie. Et je me disais au début, voyant les plans, on avance, mais j'ai l'impression qu'on recule au niveau de l'architecture. Ben. Je me suis dit, j'ai l'exemple de Strasbourg, où je me rappelais ses plans avec ses services, avec des unités et le jardin à l'intérieur. Je me rappelle aussi de l'EPSAN, où on disait les patients travaillaient encore. En fait, c'était encore comme une ferme. Voilà, je dirais que maintenant on est au 21e siècle, on avance. Je vois d'autres projets que j'ai pu voir à Bijwiller, dans le nord de l'Alsace, financés par l'EPSAN. Donc ce sont des bâtiments neufs. Décidément.
Ah, il faut le rapprocher par contre. Je suis désolé, mais bon. Ouais.
J'ai pas de chance, là, je viens enfin. Donc je perds un peu le fil de mes idées.
Bichwiller,
oui.
Construction neuve.
Et ça change un peu. Moi, je dirais, il faut que ça change encore. Je veux dire, on est maintenant dans une société. On parlait de nouvelles technologies à intégrer dans les bâtiments. Je dirais, il y en a tellement. Les portables, les ordinateurs, l'informatique, tout ce que vous voulez. Ça avance. Mais je crois qu'aussi, au niveau des représentants d'usagers, il va être très difficile d'avoir cette compétence-là. Je dirais que M. Loda disait ce matin aussi que les directeurs, les psychiatres, les personnels soignants devaient aussi avoir une formation. Ce que moi je dis aussi, je n'ai pas toutes les compétences, mais je suis ça de près. Et je dirais que je terminerai aussi par l'exemple anglais, où j'ai trouvé très bien un des patients ou des groupes de patients participent à l'élaboration d'une architecture ou d'un espace intérieur. Voilà, j'aurais juste un bémol par rapport à toute cette architecture. C'est, comment dire, c'est un sujet un peu difficile, mais surtout pour les usagers. C'est-à-dire que dans certains établissements, on met des caméras dans les chambres d'isolement. J'ai un exemple à Strasbourg qui ne me plaît pas. J'ai eu un retour de patients qui trouvaient ça dégradant et humiliant. Donc, moi, je ne sais pas, mais il y a certains projets qui continuent à parachever cette situation.
Rappelez tout de suite qu'il s'agit d'un projet.
Oui.
Donc, il ne nous concerne pas. Allez, ça, là.
Mais je suis vigilant et je...
Sochu.
Donc voilà. Donc il y a d'autres exemples sur d'autres établissements, et je dirais sur le. Je voulais poser la question si en UHSA il y avait des caméras dans les chambres d'isolement. Il y en a pas. Comment se fait-il que dans des services où il n'y a pas d'UHSA, on met des caméras? Ça c'est étonnant quoi. Est-ce qu'ils sont, je vous dirais, est-ce qu'ils sont plus dangereux que d'autres personnes? La question est posée. En tout cas, je dirais qu'il ne sert à rien d'enlever des murs si on met des caméras à la place.
Le contrôleur général des lieux de privation de liberté, Jean-Marie Delarue, sur cette estrade l'an dernier, a pilonné en disant c'est scandaleux. Il a écrit un rapport là-dessus. C'est les caméras dans les chambres d'isolement ne doivent pas exister dans la chambre.
Et malheureusement, il existe. Et voilà. Alors voilà, je vais terminer au propos parce qu'on est pris par le temps. Voilà. Mais je remercie l'ADES et M. Carole de m'avoir fait participer à cette journée. Merci, M. Dami.
Oui, juste deux remarques. Une sur, effectivement, la parole donnée aux patients, mais c'est ce que je disais ce matin sur chacun à sa place. Bien sûr, pour le dialogue, parce qu'on ne peut pas penser à la place de l'autre. Donc je pense que c'est important d'entendre, et après on est d'accord, pas d'accord, tout ce qu'on veut, mais entendre l'autre. Et ça fait un lien avec les caméras dans les chambres. J'ai une collègue de travail qui est mais pétrie de bonnes intentions, avec la meilleure des intentions pour les autres, et elle est pour la caméra dans les chambres d'isolement, parce que ce qu'elle dit, c'est que sinon, le patient, c'est des patients qui lui ont dit, mais il est isolé, il est dans son coin, il n'est pas en relation avec, effectivement, le personnel, et du coup, là au moins, ben, s'il a le moindre problème, on peut intervenir. Donc c'est fait dans la meilleure intention du patient, dans ce qui est énoncé. Donc je pense qu'il faut vraiment, on ne peut pas savoir ce qui est bien pour l'autre, on peut penser, et heureusement, avoir une intention soignante, mais je pense qu'il faut écouter quand même l'autre. Et ça rejoint aussi cette idée de la dénomination. Ça, je pense que c'est très, très, très important. Ça fait 6 mois, enfin, plus d'un an que le pavillon est ouvert et on ne sait toujours pas comment l'appeler, parce que moi, j'avais la vague prétention de pouvoir donner une orientation de ce qui peut se faire dedans par le nom qu'on allait lui donner. Alors, on tombe dans des trucs très, très basiques, centre d'accueil psychiatrique, oui, mais ça s'est fait aux urgences. Bon, et parce que je ne voulais pas trop donner des noms de personnes. Et du coup, on n'a toujours pas trouvé, mais on réfléchit. Et on voit sur justement comment nommer quelque chose, justement, de ces caméras. Il m'a fallu qu'on me le répète 10 fois. Je faisais une visite du service, puis quelqu'un dit, ah ben, dans un autre hôpital, ils ont trouvé un nom, ils ont mis des Oculus délocalisés. Alors, il a dit, c'est quoi, Oculus? Je lui ai dit, mais quoi, c'est Oculus? Et après, j'ai compris, les caméras, évidemment, un Oculus sur la chaise de main, mais délocalisé, dans le bureau infirmier, il y a la caméra. Donc, vous aussi, vous n'avez pas bien compris, ça m'a rassuré, parce que je dis, mais c'est, on voit aussi le nom, combien, je veux dire, on fait mettre les techniciens de surface, pas, enfin, les centres de détention, par exemple à Marseille, on dit... Voilà. On dit, il y a le PM. Oh oui, le PM, c'est tout. Alors, comme ça, on dit, c'est éducation pour les mineurs. Non, c'est établissement pénitentiaire pour mineurs. C'est une prison pour enfants. Je crois qu'il faut dire le poids des mots. Et on l'a bien vu aussi dans le centre de jour. Ce qui était intéressant, c'est que dans une volonté de déstigmatisation, on est passé au déni de la maladie mentale. Enfin, donc, c'est toujours compliqué, hein, parce que dès qu'on dit un, ben, y a l'autre qui va dire. Effectivement. Enfin, c'est compliqué, mais revendiquons cette complexité.
Oui. Bon, je voulais intervenir rapidement sur deux petites choses. Bon, avant tout, j'ai bien apprécié l'observation du point de vue des usagers. Et je pense que souvent, c'est suffisant de leur demander pour avoir une réponse. C'est quoi mieux pour l'organisation? Vous demandez bien évidemment aux professionnels, aux médecins, aux ingénieurs et aux usagers surtout. Mais une autre chose sur laquelle je voulais revenir, c'est bizarre, mais je n'ai pas entendu aujourd'hui. L'importance de la taille de l'unité qu'on va construire. C'est-à-dire, nous avons construit, j'ai montré très vite ce matin, je vais y venir parce que c'est important, des centres de santé mentale, mais avec 6 ou 8 lits. Donc, construire une boîte à mesure des usagers, si on fait 6 chambres ou 8 chambres, c'est plutôt à taille familiale. C'est vraiment différent que construire 40 lits, un lieu pour 40 personnes ou 60 personnes. C'est radicalement différent. Et nous avons choisi explicitement à l'époque d'avoir plusieurs lieux déplacés dans la ville, mais maximum 8 lits. Et même à l'hôpital général, on a 6 lits. Donc, ce sont des petites unités qui font la différence. Enfin, c'est différent pour ceux qui sont de la profession, avoir une personne en crise et 6 personnes, bon, qui ont demandé d'être... hospitalisés, accueillis, mais qui ne sont pas en crise d'agitation, une personne à maîtriser, une personne avec laquelle on peut se mettre en lien en tant que soignant, donc un rapport humain, pas d'isolement, nous n'avons pas d'isolement. Autre chose, c'est avoir 6 personnes en crise maniaque tous ensemble. Vous comprenez que même la réponse institutionnelle doit être différente. Donc, c'est ça qui fait la différence. À mon avis, la taille, c'est très importante. Et quand j'entends qu'on fait de nouveaux hôpitaux avec 40 lits, 60 lits, etc., ça me fait un peu comme ça, parce qu'à la fin, le résultat ne peut qu'être sécuritaire, des contrôles. Bon, je vois encore les panopticons benthamiennes, ça fait 200 ans qu'ils existent, mais encore, on repropose, on modernise les mêmes modèles. Voilà. Je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Voilà. Bon, je m'arrête ici.
Bon, alors je vais peut-être juste rebondir, parce que bon, c'est une petite pique qu'il nous adresse à nous, les directeurs, gestionnaires. On a eu l'occasion de le dire ce matin, le docteur Meyer l'a rappelé, mais il s'excuse, il a fallu qu'il reprenne son train, donc sinon il aurait pu compléter mon propos. Donc en termes d'organisation, c'est pas Gilles Barou là, qui s'en va, je le dis discrètement, donc il me contredira. Donc il y a aussi des logiques. Un peu de gestion financière en termes d'effectifs, de viabilité, et Michel, bon, qui en parlait ce matin, donc d'utilisation optimisée des locaux, parce que construire des locaux pour les utiliser 2 fois 3 heures par semaine, ça fait cher le mètre carré à ramener à l'heure. Vous voyez, je schématise à l'excès. Hein. Donc ce sont des données qu'il faut prendre en considération. Et donc je fais toujours le rapprochement par rapport à la politique que mènent les hôpitaux généraux. Alors, j'étais très longtemps en hôpital général. Donc, il fait que, très soutenu en cela par les autorités, ARH, ARS, etc. Donc, on va plutôt dans le sens d'un regroupement sur plateau technique. Donc, pour justifier l'importance des investissements en matériel biomédical, pour justifier d'une activité de la part des professionnels qui leur permet d'avoir la compétence nécessaire, la gestion des risques, l'amélioration de la qualité. Et donc, si on se fie au plan de santé mentale, voire au SROSS, on nous demande tout à fait l'inverse, d'être présent au plus proche de la population. Ce qui, en soi, est une excellente chose. Cela étant, est-ce qu'on en a encore les moyens?
Pour notre établissement, nous avons 38 structures extra-hospitalières qui sont réparties à peu près sur les deux tiers du département du Bas-Rhin. Hein, donc ça fait à peu près 700 000 habitants. Avec une dispersion, parce que tout ne se passe pas, comme je le disais à Michel tout à l'heure, sur Strasbourg, bon, qui est la zone la plus concentrée de population, mais le restant, il y a une bonne partie de la campagne qui est aussi dense en population, mais on ne peut pas être présent partout. Donc il faut fixer des ordres de priorité et voir, c'est ce que disait aussi le docteur Meyer il y a un instant, donc essayer de voir où se situent les besoins de la population pour qu'on on soit plus proche du besoin le plus important à la fois en quantitatif qu'en qualitatif. Hein. Alors, c'est un peu la recherche de la quadrature du cercle. Bon, en MCO, ça fait longtemps qu'ils ont abandonné cette question. Alors, de temps en temps, il y a encore une petite structure, un petit CH qui apporte des réponses un peu de type dispensaire. Mais bon, les équipes, les spécialistes sont dans des CH qui sont de plus en plus importants, avec un maillage qui reste. Et bon, alors, c'est un peu la difficulté de l'exercice qu'on a. Je ne sais pas si tu es d'accord, toi, Vincent, à ce sujet. Mais bon, la vérité se situe entre l'idéal, ce qui est souhaitable, et ce qui est possible et réalisable, à mon avis.
Juste une remarque pour réagir sur ce que tu viens de dire. Ce n'est pas une remarque contradictoire. J'ai souvent l'habitude de parler de la paille et de la poutre. Certes, on a des problèmes. On a tous à peu près les mêmes questions de couverture territoriale, notamment sur les zones urbaines, cet enjeu des zones périurbaines. Parce qu'on n'est pas sur ces grosses agglomérations, effectivement, on n'est pas confronté, même si on peut en avoir par ailleurs, à des zones en désertification. Au contraire, le problème, c'est que les zones désertifiées ont tendance parfois à se redensifier. Mais on a surtout cet enjeu des zones périurbaines, où on a un effet de ciseau assez majeur en général. Notre offre n'a pas bougé, ni qualitativement, ni quantitativement. Moi, j'en témoigne pour mon établissement, il n'y a pas de fausse honte. Les populations ont très fortement augmenté, et la demande de soins elle-même fortement évolué. Alors, c'est pas tellement pour ça que je voulais réagir. Quand je dis la paille et la poutre, on parle effectivement de la question des moyens pour couvrir le territoire. C'est un sujet extrêmement complexe, pas l'aborder ici, je n'ai pas assez de prétention. En revanche, n'oublions quand même pas que, un, la majorité, et parfois de façon très importante, des moyens restent concentrés sur l'hôpital-centre, parce que je crois que c'est quand même la réalité majeure dans ce pays, quoi qu'on en dise et quoi qu'on ait fait depuis des décennies, ou dit qu'on avait fait. Le deuxième aspect, et là, je n'en témoigne que pour mon établissement, pour fonctionner sur 850 000 habitants avec 300 lits adultes, je dirais qu'on y arrive, ça suppose effectivement tout un tas d'autres solutions, et elles sont notamment extra-hospitalières et mobiles, sauf que, on parlait du management, le problème du management aujourd'hui, c'est de se confronter notamment au corps médical, aux organisations syndicales et à toute une partie des soignants qui ne font que réclamer des lits, ce qui nous met d'ailleurs cul par-dessus tête, et à rebours de cette question, de cet enjeu extra-hospitalier, qui, pour boucler mon propos, viendra quand même pas uniquement de moyens supplémentaires, surtout en cette période.
Oui, je suis bien d'accord, j'ai dit mille fois, je le répète, parce que c'est une bataille, j'ai dû dire perdu, mais enfin, le drame, c'est que les lits, c'est l'unité des mesures des ressources en psychiatrie. Par contre, il devrait être le bassin de population desservi par les services. Donc, si vous desservez 600 000 habitants, bon, c'est la proportion d'être à ça, pas à la taille des lits. Parce qu'après, quand on met les lits comme unité de mesure, on ne s'en sort plus. Donc, c'est vraiment la moyenne. Mais c'est partout dans le monde, même en Italie, hein. Mais en Italie, ce qu'on a fait, on a déplacé tout dehors. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'intra et d'extra. Notamment, à Trieste, c'était la première place où ça s'est passé. Mais il n'y a pas d'intra et extra. L'intra sont 6 lits d'urgence à l'hôpital général, où les personnes restent maximum 24 heures. Après, c'est le centre de santé mentale communautaire avec des lits qui est ouvert 24 heures sur 24, qui fait même les soins normaux qui sont faits pour les personnes. Voilà. Ça, c'est complètement extra. Donc, c'est vrai que quand on balance intra-extra, c'est toujours défavorable pour l'extra et on va concentrer les ressources d'une seule part. Ouais, ça,
c'est pas tout à fait exact concernant notre cas. Hein, je précise toujours, hein, je généralise pas. Hein. Alors, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis. Dans notre cas présent, on a justement cette difficulté à gérer. avant de passer à la parole à M. Guillemin, ce serait intéressant qu'il remette un peu en perspective, en fonction de tout ce qu'il a pu entendre, tous les échanges qu'on a par rapport à son propos liminaire historique. Donc, nous notre projet sur Strasbourg donc est de perdre 60 lits, docteur Marsili. Je trouve que c'est bien dans l'absolu, mais ça nécessite un effort de réflexion très intense sur comment on fait pour la gestion de l'amont, de l'aval, etc. Les liens avec nos collègues, Erstein qui était présent, le CHU, d'où la nécessité de travailler davantage avec une convention de collaboration pour savoir qui fait quoi et comment. Parce que la perte de, entre guillemets, de 60 lits sur 200, donc c'est pas rien pour 4 secteurs. Hein.
Vraiment 10, quand je dis de résister dans le langage, j'essaie, mais c'est très difficile à faire, de ne plus parler d'intra-hospitalier et extra-hospitalier. Je dis hospitalisation à temps plein, ambulatoire, temps partiel, c'est très long. Mais quand, pour lutter contre l'hospitalocentrisme, on parle d'extra-hospitalier, d'intra-hospitalier, il n'est pas mort. Hein.
Bien. En conclusion, parce qu'il en faut bien une, elle sera forcément provisoire, mais un historien écrit toujours l'histoire à partir d'éléments divers, jamais complètement stabilisés. Je propose que M. Guillemin, qui est maître de conférence donc, en histoire contemporaine, nous aide à reprendre de la hauteur en nous resituant nos débats de cette deuxième partie de journée, après son intervention de mise en perspective historique en début de journée, nous aide en synthétisant à la manière d'un universitaire ce qu'il a entendu, un universitaire qui n'est pas un soignant, qui n'est pas un directeur d'hôpital, qui n'est pas un psychiatre. Voilà, je vous laisse la parole. Et puis on arrêtera là parce qu'il est l'heure.
Merci, c'est une mission un peu difficile là que vous me confiez. Je vais juste faire quelques remarques à partir de tout ce que j'ai entendu depuis ce matin. La première, c'est un peu une remarque qui porte un peu sur le métier d'historien, qui est finalement assez facile, peut-être aussi facile que celui d'un directeur d'établissement du 19e siècle, lorsqu'il a affaire à une institution unique, centralisée. L'historien sait très bien faire avec ça, et je dirais jusqu'aux années 60-70. Et la tâche se complique, peut-être celle aussi du directeur d'établissement autant que celle de l'historien, lorsqu'il est confronté à des multiples lieux de soins, à un éclatement des structures dans le territoire. Et ce que j'ai entendu aujourd'hui enfin, me fait beaucoup réfléchir sur un certain nombre de problématiques, et des problématiques qui semblent un petit peu, je dirais, permanentes pour la psychiatrie depuis sa création, on va dire, scientifique. Au début du 19e siècle, je prendrai juste un exemple qui m'est venu en écoutant un certain nombre d'interventions. C'est la question du lien entre psychiatrie et milieu carcéral. On a parlé des UHSA tout à l'heure. Moi, j'ai travaillé sur des dossiers d'archives qui datent du début du 19e siècle où un médecin qui n'était pas un aliéniste, un médecin de la Sarthe qui s'appelait le docteur Mallet, se posait la question de la manière dont il allait gérer ces patients qui étaient dans ce qu'il appelait à l'époque l'hospice des prisons, un lieu d'accueil médicalisé dans les prisons qui n'était ni la prison ni l'hôpital, mais qui était une espèce d'espace intermédiaire. Ça, ce sont des dossiers qui datent des années 1810-1820, avant même la création des grands établissements. Donc évidemment, il y a des rejeux permanents de ces problématiques permanentes en psychiatrie, même si elles rejouent différemment selon les contextes historiques, politiques, sociaux, économiques, évidemment. Et alors, la deuxième chose qui m'a beaucoup frappé, c'est la grande diversité des situations locales, malgré la diffusion des modèles administratifs, des contraintes économiques. Ça, je crois que c'est quelque chose qui est vraiment évident. Et deuxièmement, la circulation des modèles européens. Ici, on a parlé du cas italien et du cas anglais. Ces modèles circulent au XIXe siècle, au début du XXe siècle. Il y a une question qui n'a pas été évoquée aujourd'hui, mais j'avoue que je suis complètement ignorant, c'est est-ce qu'il existe un modèle européen, finalement, de l'architecture psychiatrique? Est-ce que l'Europe, là, fait quelque chose dans ce domaine? C'est une interrogation. Et je resterai sur cette interrogation, si vous voulez bien.